Je m'appelle Monica Beguin, j'ai 15 ans.
Est-ce que tu peux nous parler de la vie sur le camp? Comment tu vois ça, toi?
C'est bien, on part pour la ferraille, pour faire d'argent.
Et quelles sont tes difficultés sur la place?
Il vient la police, pour, il nous dit pour partir sur la place. Il ne nous laisse pas pour rester sur la place.
Monica fait partie d'une famille rome dont le campement est situé près de Douai, entre Courcelles-lès-Lens et Oby. Pour évoquer la situation de cette famille, on a rencontré plusieurs personnes du comité de soutien aux Roms du Douaisis. On entendra Sylvie, Georges, Madeleine, Daniel et Gérard.
C'est le hasard tout à fait qui nous a fait rencontrer cette famille. Et petit à petit, on a poursuivi les actions d'aide, on les a diversifiées, on a sympathisé. Et puis est arrivé un moment où on a éprouvé le besoin de se constituer en association pour se structurer, pour avoir un peu plus de poids et éventuellement aussi avoir des subventions, etc. etc. quoi.
Et recueillir des adhésions, ça permet à des gens de qui tournent autour de nous de se fédérer et d'apporter leur soutien concrètement sur le terrain, mais aussi par des dons. Voilà, parce qu'on est bien obligé de fonctionner comme ça.
Pour bien faire comprendre aux auditeurs, aux auditrices, quelle est la situation de cette famille qui est basée donc à Oby?
À Courcelles,
à la limite entre Courcelles.
On ne sait toujours pas exactement s'ils sont sur Courcelles ou sur Oby, probablement moitié-moitié, hein, puisqu'ils sont juste à la frontière.
C'est une famille élargie, c'est-à-dire qu'il y a le père, la mère et une fratrie de 7 enfants qui ont eux-mêmes des conjoints et des enfants. Donc ils vivent là tous regroupés dans des caravanes, mais c'est un mode d'habitat qui n'est pas courant chez eux, puisqu'en Roumanie, ils sont dans des petites maisons et pas forcément dans la même ville ou pas forcément dans le même village. Là, le fait qu'ils soient venus en France les a fait se regrouper sur le même campement.
Souvent, ce genre de campement, c'est très précaire, pas de chauffage bien sûr, pas d'eau courante.
Ah oui, ce sont des conditions très précaire puisqu'il n'y a ni eau, ni sanitaire, ni gaz, ni électricité. Il faut que nous soyons présents constamment pour leur apporter un minimum de conditions décentes de vie, ne serait-ce que l'eau potable déjà.
En fait, ce sont des personnes qui veulent se fixer, qui veulent avoir un habitat comme tout le monde et non pas changer de coin. Il ne faut pas confondre avec les gens du voyage. Ce sont bien des gens qui sont à la recherche d'une situation d'habitat normal.
Qu'est-ce qui fait que cette famille a quitté son pays d'origine, la Roumanie, pour arriver du côté du Douaisis?
Je crois que la raison est très simple. Quand on leur demande pourquoi ils sont venus, ils répondent Roumanie, rien à faire. Alors rien à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de travail, ça veut dire pas d'avenir, ça veut dire pas de vie possible, quoi. Là, ce sont des réfugiés économiques. Et en plus, des proscrits, quoi, hein, en quelque sorte.
Et ce qui est quand même... qui peut poser question, c'est que... Quand on leur pose la question par rapport à l'histoire de la Roumanie, ils disent souvent qu'ils étaient mieux à l'époque de Ceausescu, alors que nous disons le contraire. Et eux disent que c'était mieux l'époque de Ceausescu parce qu'on avait du travail. Donc là, ils avaient une certaine reconnaissance, alors que nous, on penserait que cette époque-là était une époque difficile. Et pour eux, c'était le contraire.
Oui, il est remarquable d'ailleurs de constater que les anciens, donc qui étaient jeunes à l'époque Ceausescu, savent lire et écrire, sont allés à l'école, et la plupart des jeunes, non.
Le comité de soutien aux Roms du Douaisis apporte un suivi scolaire pour les enfants. Ils essaient aussi d'organiser des petites sorties culturelles, concerts, films et spectacles gratuits. Il y a aussi un suivi très important au niveau santé et puis administratif. Mais le plus important, ça reste le suivi alimentaire de cette famille rome.
Effectivement, nous leur apportons une aide alimentaire, une aide vestimentaire et quelquefois financière, mais ce ne sont pas, malgré tout ce que l'on peut dire et tous les bruits qui peuvent courir sur leur dos, ce ne sont pas des fainéants. ils travaillent sans arrêt. Ils font de la ferraille et c'est pas facile parce qu'il y en a de moins en moins, parce qu'ils sont pas toujours forcément bien accueillis sur les trottoirs des communes qui font les encombrants, hein, les jours d'encombrants, etc. Mais ils travaillent, ils essaient vraiment de s'en sortir, de gagner 3 sous, d'améliorer leurs conditions par eux-mêmes. Ils se contentent pas d'attendre que l'aide arrive. Et ça, je tiens absolument à le dire très fermement parce que c'est un discours que l'on entend malheureusement trop souvent.
Dans quelle situation administrative est cette famille plutôt? Est-ce qu'elle a des droits sociaux? Est-ce qu'elle a un droit comme n'importe qui à une aide minimum en termes de prestations santé? Ou est-ce qu'ils sont complètement à côté du système?
Alors, ils sont complètement à côté du système, ils n'ont droit à rien. Ils bénéficient néanmoins d'une petite aide du département, pour certains, d'une petite aide de la région pour d'autres, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et puis ça peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi, hein. C'est pas un droit, c'est quelque chose qu'on leur accorde comme ça, quoi. Enfin, ce sont les services sociaux du département et de la région qui acceptent de leur venir en aide. Mais ça se réduit, bien évidemment, parce que c'est la crise aussi, hein, sur le plan financier. Et on ne sait pas, ça vous le dit, ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
Ah, c'est une famille qui est aujourd'hui, à l'heure où on parle, menacée d'expulsion.
L'année dernière, il y a eu beaucoup d'OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français. Et là, bah, très régulièrement, ils recevaient, on leur remettait des papiers comme quoi ils devaient retourner en Roumanie, manu militari. Et bon, il a fallu négocier avec la police des frontières, avec pas mal de gens, pour trouver un modus vivendi qui leur permette là aussi de garder leur dignité, hein, et de ne pas être traités comme des sous-hommes, quoi. Mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé parce que on était là pour faire la liaison entre eux et la police.
Ils sont toujours dans une situation précaire. Ils ont le droit de venir, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils ont un temps limité, je crois, à 6 mois. Ils s'en vont 24 heures, ils reviennent pour 6 mois. Enfin, c'est une situation absolument anormal et anachronique même.
Il y a eu un avis d'expulsion qui a été déposé il y a un mois à peu près, un mois et demi, quelque chose comme ça. Mais c'est un avis d'expulsion municipal. Hein, ça n'est pas un avis d'expulsion qui émane de la police des frontières ou de la préfecture. Hein, c'est quelque chose de local.
Pourquoi cet avis d'expulsion? C'est le maire de la commune qui a décidé qu'ils en avaient assez, ou comment ça s'est passé en fait?
Bah écoutez, c'est très difficile de savoir ce qui a réellement motivé cette demande d'expulsion. Le peu de choses que j'ai pu savoir et que j'ai appris au moment où ça s'est passé, c'est que des bruits avaient couru dans Courcelles, que cette famille, enfin notre famille, je veux dire, hein, puisqu'ils font partie de notre famille maintenant, avait tenté d'enlever des enfants aux abords des écoles. Ce qui est un bruit complètement ridicule, parce que quand on les connaît, donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est avec eux, on sait très bien que c'est quelque chose d'absolument impensable. Et alors, est-ce que ça a été le déclencheur? Je pense que ça a été au moins l'un des déclencheurs de cet avis d'expulsion, et qui a entraîné notre réaction, bien évidemment.
Donc, réaction, une manifestation que vous avez organisée avec le comité, c'est ça?
C'est une manifestation. Donc, le comité et le collectif élargi s'est retrouvé devant la mairie de Courcelles un samedi matin pour essayer enfin d'avoir une discussion avec monsieur le maire de Courcelles, qui a toujours refusé de nous recevoir. Et quand on l'a eu en face de nous, on s'est bien rendu compte qu'il ne voulait pas de dialogue. Il l'a bien dit, je ne dialogue pas. Ça ne sert à rien. Et il a joué sur la peur de la population de Courcelles, hein, qu'on n'a jamais compris. Et il a fait une confusion énorme. Il a confondu les gens du voyage, les Roms, alors que ce sont deux populations complètement différentes. Hein. Donc on a bien senti la méconnaissance du dossier, la méconnaissance de la situation, la méconnaissance du problème.
Je reviens sur la situation du maire. Bon, c'est vrai que dans d'autres villes aussi, les maires sont un peu pris en étau entre les collectifs d'aide aux Roms et de l'autre côté, des habitants, des riverains qui se plaignent de nuisances qu'on peut aussi peut-être entendre et qui se font entendre. On a vu, par exemple, à LM, des grosses manifestations, des manifestations un peu haineuses, quoi, aussi.
Moi, je voudrais dire que l'enjeu du collectif, ici, c'est quand même d'être sur un camp à taille humaine. Donc, on est sur un camp avec une dizaine de caravanes et une trentaine de personnes. Donc, c'est gérable et on peut établir... Il y a un dialogue entre eux et nous. C'est notre famille, hein, comme on disait tout à l'heure. Et ça permet d'avancer ensemble. Et je pense que quand il y a 1000 personnes sur un camp, c'est vrai que c'est ingérable. C'est comme dans tout quartier, en fait, où il y a beaucoup de précarité. C'est difficile à vivre. Donc, surtout dans des conditions dans lesquelles vivent les Roms. Donc, le fait qu'on soit sur un camp comme ça, avec une trentaine de personnes, la situation est beaucoup plus facile à gérer. Ça permet aussi d'établir des liens avec d'autres personnes, parce qu'il y a tout un travail à faire aussi pour changer les mentalités par rapport aux Roms. La peur des Roms, la peur de l'étranger, hein, c'est toujours en nous, en fait, même cette peur de l'étranger. Et il ne s'agit pas d'y aller avec des gros sabots, mais petit à petit, on peut faire connaître des visages. Hein. Quand on est 30, les visages sont plus faciles reconnaissables. Donc, il y a ce travail-là qu'on essaie de faire aussi.
Et justement, ce qui est plus médiatisé, ce sont les grands groupes qui, à un moment donné, pose problème, autour desquels la population ne tient plus, et parce que les ordures, parce que le bruit, parce que certaines réactions, etc. Mais ça, c'est comme dans n'importe quel grand groupe, et on tourne en rond, parce que nous, ce qu'on voudrait justement, c'est que tous les maires de la région se mettent ensemble autour d'une table, comme ils nous disent tous souvent, mettez-les autour d'une table, mais eux ne veulent pas le faire par eux-mêmes. Il faudrait que nous, on aille chercher tous les maires, et c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs, parce qu'on reste toujours en contact, on essaye d'être en contact avec les collectivités territoriales, les maires, les préfets, etc. Mais ils ne veulent pas vraiment discuter ensemble, parce que s'ils se partageaient, entre guillemets, ces familles, ça ne représenterait pas quelque chose de volumineux pour chaque commune, quoi. Ce serait tout à fait faisable. Et ça faciliterait aussi le travail des associations sans lesquelles ces collectivités territoriales ne peuvent pas voir le bout du problème. Elles sont bien conscientes quand même que toutes ces associations font un travail énorme et sans elles, ce serait encore pire. Et c'est ce qu'il faudrait dire aussi à la population, quoi.
Oui, justement, le fait que chaque commune s'occupe d'une ou deux familles, c'est une des solutions envisagées, préconisées par les autres collectifs, hein, parce qu'il y a votre collectif, mais il y a d'autres collectifs. Un mot sur ce dialogue, comment ça se passe avec les autres collectifs?
Moi, je ne peux pas m'avancer beaucoup ni dire grand-chose, parce que ce sont des actions spécifiques du collectif Fraternité Roms Bassin Minier, mais ils ont mis en place un certain nombre d'actions, de rencontres, de contacts avec les municipalités de Léninois, du Lensois, et il y a quelques avancées, effectivement, parce que très peu, mais quelques municipalités acceptent de dialoguer maintenant et de mettre en place, de commencer à mettre en place des projets, mais non pas pour un groupement de 300 ou 400 ou 500 Roms, mais pour des petites fractions. Et je pense que c'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre.
Oui, parce que dans la continuation là, de ce qu'on disait, nous, ce qu'on cherche là, très concrètement, c'est par exemple un terrain pas énorme, mais viabilisé. Et à partir de ce moment-là, eh bien justement, les fameuses associations qui aident ces gens ont des solutions pour faire des petites constructions faciles, pour avancer, une stabilisation, quoi, c'est ça surtout. Mais il faudrait juste, ça paraît, bien sûr, c'est peut-être pas si facile que ça, mais je pense que c'est pas hyper compliqué pour les communes. Il faudrait que ces communes acceptent de temps en temps céder un terrain simple, mais viabilisé, pour que nous, on puisse continuer à monter des choses dans tous les sens du terme. Oui.
le mieux étant bien évidemment du dur. Hein, et parce que bon, ces familles n'ont pas vocation non plus à rester en tribu. Ils accepteraient très bien de une famille vivre dans un endroit et une autre famille dans un autre endroit, quoi. Hein. Peut-être pas très très loin, mais ils ne veulent pas absolument rester en groupe, quoi.
Justement, un petit mot sur ces projets d'intégration, quoi, avec aussi cette idée très répandue dans la population et même dans les discours politiques, cette idée que les Roms, c'est pas une population qui veut s'intégrer, qu'on peut intégrer. Alors comment vous voyez un petit peu ce discours ?
Je pense qu'on ressent chez cette famille un réel désir de s'intégrer. Hein, et ce qu'ils veulent, c'est un avenir meilleur pour leurs enfants. Et ils sont tout à fait, quand on a parlé de scolariser les enfants, c'était déjà une demande de leur part, hein, de scolariser les enfants. Et c'est vraiment par là que la situation pourra s'améliorer. Et on note, par exemple, des petites choses anodines. Il y a eu deux naissances sur le campement à un an et demi d'intervalle. Eh bien, le bébé qui est né il y a un an et demi a été emmailloté encore pendant 7 mois comme une momie, comme au XVIIe siècle chez nous, alors que le bébé qui est né à un mois et demi, eh bien, il est dans une nacelle de landau, il a ses petits bras et ses petites jambes libres. On voit que petit à petit, ils font autrement. Et ils veulent faire autrement. Et je pense qu'à notre contact aussi, ils apprennent beaucoup et ils sont demandeurs.
Surtout contrecarrer cette idée selon laquelle ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne les envoient pas. De toute façon, même si on fait un effort, ils ne les envoient pas à l'école. C'est absolument faux. Ils veulent l'école. Et il faut voir les enfants qui commencent à progresser en lecture, mais il faut voir leur joie et leur demande. À chaque fois qu'on arrive, c'est cahier. En fait, souvent, Alexandra dit cahier pour livre. Bon, ça veut dire, oui, tu t'es encore venu avec des livres. Je veux lire. Alors qu'en fait, ils progressent bien, ils déchiffrent et puis ils ne comprennent pas forcément tout de suite parce qu'eux, il y a deux niveaux de difficulté. Il y a la langue, les deux langues différentes et puis après, déchiffrer comme n'importe quel enfant. Et il faut absolument dire qu'ils les envoient à l'école et ils font tout. Et ensuite, les enfants donnent satisfaction à l'école. Quand ils vont à l'école, ils sont tout beaux, je dirais. Ils font comme ils peuvent, mais ils sont tout beaux, ils sont propres, contrairement aussi à ce qu'on entend souvent. Ils sont sales, ils sont ceci, cela. Non, et malgré leurs conditions terribles de vie, eh bien, ils envoient les enfants toujours propres. On se demande même comment ils arrivent à faire.
Et encore un petit détail à propos d'école. Là, sur Courcelles, on l'a dit tout à l'heure, tous les enfants scolarisables sont scolarisés, c'est-à-dire 7, mais dans 4 écoles différentes. Il ne pose strictement aucun problème d'intégration. Absolument aucun. Ni en classe, ni dans la cour. Tout se passe à la perfection.
Il faut dire un mot pour les instits, qui sont drôlement ouverts et qui font un travail formidable avec eux. Et ça, c'est parmi les partenaires qu'on peut avoir, les instits et les écoles sont des partenaires formidables. Svedok živi, vatre uvek ima. Ne može ništa da mu gasi. Čak ni suza.
Dernière partie de notre entretien avec les membres du comité de soutien aux Roms du Douaisis, un entretien réalisé vendredi dernier.
Vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous leur apportiez, mais qu'est-ce que vous, ils vous apportent
Alors là, c'est une excellente question, parce qu'ils nous apportent beaucoup, et Madeleine disait tout à l'heure qu'ils progressent, justement, je le soulignais très récemment, Ils ont eu, il y a 15 jours, un énorme ballot de vêtements, de trucs divers, quoi. Donc, ils ont trié, bien évidemment. Ils ont pris ce dont ils avaient besoin. Et le reste, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait du reste? Ben, ils l'ont donné à la Croix-Rouge. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Nous est arrivé de faire des fêtes avec eux. Et rien que le fait d'être ensemble, de se tenir par la main ou par le cou ou par la taille et partager, de rire, de se regarder, on sent, bah, bien sûr, c'est comme dans n'importe quel groupe humain, l'échange est là dès qu'on le veut et c'est formidable. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne comprend pas pourquoi on les considère, comme disait Georges, des sous quelque chose. Parce que, voilà, il faudrait déjà voir le problème de l'humain. Même si ça pose question, même si pourquoi viennent-ils, pourquoi veulent-ils rester, repartent-ils ou pas, etc., ben, ce sont d'abord des êtres humains qui peuvent apporter des tas de choses. Et rien que pour ça, on doit les considérer leur donner, leur respecter leur dignité.
Moi, je voulais quand même signaler aussi que ben, c'est vrai qu'on sent que la vie est lourde hein, quand même dans les camps et qu'il y a des moments difficiles, mais ils ont quand même une joie de vivre qui nous étonne quand même. Hein, les enfants sont quand même pleins de rire hein, quand on les voit. Hein, Monica, tu souris tout le temps sur le camp, hein, c'est vrai. Hein, et c'est vrai, et que ça interpelle quand même dans une société dans laquelle on est toujours en surconsommation. Et là, on est vraiment, voilà, et en surtristesse, oui. Et là, on est devant des situations difficiles et il y a une forme de vie étonnante. Quand même.
Ah oui,
et ça nous interpelle.
Toujours,
quoi.
Et ouais. Toujours. Ouais, ouais. Les enfants, petits et grands, mais il y a beaucoup de petits, mais ils sont très pétillants, ils rient toujours. J'ai encore vu tout à l'heure Robert, mais il était tout sale parce qu'il venait de manger, il s'en mettait partout, etc. Il était éclatant. C'est même vraiment très surprenant, quoi. Passer sa petite tête de cette caravane qui est vraiment misérable, quoique bien tenue, ça aussi, il faut le dire, parce que c'est misérable, mais ils arrivent à tout tenir parfaitement comme ils peuvent. Et puis, ils sortaient cette petite tête-là, toute rayonnante. Ils sont tous comme ça, c'est vrai que c'est incroyable.
On était avec Sylvie, Georges, Madeleine, Daniel et Gérard, membres du comité de soutien aux Roms du Douaisis. Une adresse mail pour rentrer en contact avec l'association. Alors c'est comité soutien Roms avec deux R, Douaisis. Donc comité soutien Roms avec deux R, Douaisis tout collé, @gmail.com. Vous retrouverez cette adresse sur notre site internet www.radiopfm.com.
Si toutes les routes mènent à Rome, je veux pas finir comme un Rome à Babylone. Et si l'humanité slalom, pas finir comme un Rome à Babylone. J'ai fait du nomadisme touristique au lever de rideau soviétique, à la rencontre du premier type. Where do you come from? J'ai vu des faux seigneurs d'Égypte antique ou du Rajasthan romantique, tous parqués en périphérique. Where do you come from? Rome. Si toutes les routes mènent à Rome, je veux pas finir comme un Rome à Babylone. Et si l'humanité slalom, je veux pas finir comme un Rome à Babylone. Escalant bidonville, belle ville biblique, sac de Rome et tout se complique. Carnet de voyage anthropométrique. Where do you come from? Et tous ces hippies gypsy nostalgiques, et tous ces rambaba mélancoliques, tête de turc ou héros tragique. Where do you come from? Rome. Si toutes les routes mènent à Rome, je veux pas finir comme un Rome à Babylone. Et si l'humanité slalom, je veux pas finir comme un Rome à Babylone. La 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 la. La 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 la
mènent à Rome. Je voudrais pas finir de Rome à Babylone. Et si l'humanité slalom, je veux pas finir comme à Rome à Babylone. La 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 la. La 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 la.
The same, in Germany the same, France, Italy the same, Yugoslavia the same, Andalusia the same, Bulgaria the same, Hungary is the same, Romania is the same, Catalonia the same, Korea is the same.